Merci, et tout de suite, on déhousse les raquettes.
Je dirais même plus,
on déhousse les raquettes. 1, 2, 3.
Sapristi.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Bonsoir, je suis Zéna Birachad.
Bonsoir, je suis Gérard Lefort.
Bonsoir, je suis Benoît Peters.
Bonsoir, je m'appelle Serge Tisseron.
Et ce soir, pour cette émission tintinomaniaque, dans le salon d'honneur du Grand Palais, elle et il nous entraînent le long de la ligne claire d'Hergé, mais aussi dans les récits souterrains de Tintin.
Ping-pong. La culture sans limite. Et dites-nous.
La culture sert à tout, même à aimer l'opium. Hergé, sympathisant nazi, ou du moins collabo, l'accusation rejaillit régulièrement à son propos et nous l'allons peut-être évoquer avec nos invités. Mais s'il est un point commun indéniable entre le père de Tintin et le Führer, et entre les personnages des aventures du petit reporter et les Allemands qui ont porté au pouvoir Hitler, c'est leur appétit partagé pour les psychotropes. La preuve avec l'ouvrage de Norman Holler qui vient de paraître en français sous le titre « L'extase totale, le Troisième Reich, les Allemands et la drogue ». On y découvre que sous le joug hitlérien, soldats, enfants et femmes au foyer carburaient volontiers à la pervitine, plus connue par les fans de Breaking Bad sous le nom de méthamphétamine. Bon, même parfumée goût chocolat par les savants nazis, la pervitine n'est pas tout à fait comparable à la quinine que vante Hergé pour soigner les éléphants et les Congolais, ni même au whisky du capitaine Haddock. On est plus proche de la coke en stock. Et ça fait parfois le même effet que le N14. Vous savez, cet additif qui rend l'essence plus explosive et que les Dupont s'enfilent et hallucinent joyeusement par la suite dans l'or noir. Surtout, dans son ouvrage L'extase totale, Norman Holler nous dépeint un high Hitler. Un Hitler chépère, camé, accro aux picousses de stéroïdes et même à l'eucodal, un puissant dérivé de l'opium. L'opium, ce qui fait courir Tintin dans Les cigares du pharaon, Le lotus bleu et Le crabe aux pinces d'or, cet album que Pierre Ajam qualifie d'épopée éthylique et stupéfiante. Mais de là à penser que le bunker d'Hitler à Berlin était plein de haches comme les caves de Moulinsart dans la dernière aventure de Tintin, l'Alphard, eh bien il n'y a qu'un petit pas que ne s'autoriseront peut-être que les Dupont en pleine remontée de N14 sur la Lune.
Vous savez ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que Milou commence à boire très sérieusement. Je ne sais pas s'il est influencé par le capitaine.
Oui, oui, j'ai remarqué que Milou suit très particulièrement le capitaine quand le capitaine a des bouteilles de whisky dans ses poches. Et...
Oui, il manque jamais l'occasion.
Allons, Milou.
Trêve de confiserie, l'extase totale, le Troisième Reich, les Allemands et la drogue de Norman Holler est publié à la découverte. Quant à l'œuvre stupéfiante d'Hergé, bien sûr, nous sommes en son sein, en plein cœur du Grand Palais, en public pour cet enregistrement. Et je vous prie, mesdames et messieurs, de me pardonner pour cette ouverture un brin iconoclaste à propos d'Hergé et de sa créature Tintin. Mais Gérard Lefort, pour ma part, enfant, j'ai surtout été marqué par les expériences hallucinantes, hallucinogènes, hallucinatoires des personnages de Tintin quand ils avaient abusé de substances psychotropes. J'aimerais savoir, vous, quel effet délirant et peut-être hallucinogène, lui aussi, a pu vous faire Tintin ?
Oui, Tintin, vous avez raison, c'est une drogue dure. Ce qui est bien, c'est que c'est une drogue qui coûte pas cher et qui dure longtemps. Donc, c'est mieux que le LSD. Hallucinogène, oui, mais c'était pas ça. Moi, ce qui me... Enfin, on a parlé, et on en parle d'ailleurs très très bien dans cette exposition, du graphisme et de ce qu'on a appelé la fameuse ligne claire. Ligne claire, ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'ombre. C'est-à-dire que j'ai été frappé à quel point, là, de nouveau dans l'exposition, et en lisant et relisant sans cesse les albums de Tintin, c'est les ombres, les zones d'ombre, qui sont les démons de Tintin, ses rêves, mais ça, Serge Tisseron nous en parlera beaucoup mieux que moi, qui sont tous pratiquement des cauchemars. Donc moi, c'était ça. Et puis, fondamentalement, aujourd'hui, puisque... On a le droit 7 à 77 ans. Vous savez que Michel Serre avait demandé une dispense spéciale à Hergé une fois qu'il a eu 77 ans pour pouvoir continuer à lire les albums au-delà de 77 ans. Et Hergé lui a accordé le Vénard. Moi, ce qui aujourd'hui me frappe, qui est peut-être moins manifeste dans cette exposition, c'est la dernière grande tentative d'encyclopédie des savoirs. C'est-à-dire que dans Tintin, il y a tous les savoirs. Il y a les sciences dures, hein, les mathématiques, l'astrophysique, la physique. Il y a les sciences moins dures, on va dire, que sont l'ethnologie, l'anthropologie, bien entendu. Et puis, il y a l'histoire, la géographie. Bref, il y a tout. Tout comme tentative. Et c'est la dernière fois que dans une œuvre très complète, puisque c'est Benoît Peters nous rappellera, je ne sais pas combien, il y a combien de volumes de Tintin, Benoît ?
22 albums canoniques 22. En couleur, plus Tintin au pays des Soviets et Tintin et l'Alphard, donc 24. Voilà.
Donc c'est une véritable œuvre complète qui tente encore une fois l'encyclopédie des savoirs. C'est magnifique et c'est sûrement une des nombreuses raisons, il y en a plein d'autres, du succès mais phénoménal. Michel Serres le rappelle en début de l'émission, c'est quand même rare une œuvre qui parle à... au grand-père, voire l'arrière-grand-père qui est actuellement Michel Serres, ses enfants, ses petits-enfants, et je l'espère pour lui bientôt, ses arrière-petits-enfants.
Benoît Peters, oui, Michel Serres, il est dans cette exposition Hergé au Grand Palais. Il dit que c'est Tintin, c'est une des œuvres les plus profondes de notre temps. Pour lui, c'est le Jules Verne de la BD. Benoît Peters, vous êtes entretenu plusieurs fois avec Hergé. Vous faites les plus grandes biographies le concernant. Déjà, quel est votre point de vue sur cette analyse un petit peu hallucinogène des œuvres de Tintin, sur cette présence de la drogue? Vous regardez ça comme quel rôle ça a dans l'œuvre de Tintin?
Je crois que la part nocturne, la part de l'ombre qu'il y a dans les aventures de Tintin est une des causes essentielles de leur succès. Dans une période où l'enfance était vraiment muselée, verrouillée, où les parents faisaient très attention, les éducateurs faisaient très attention aux lectures, le côté rassurant du dessin d'Hergé, ce trait bien fermé, ces couleurs pastels, ont permis, si j'ose dire, de faire passer la pilule d'une œuvre remplie de terreur. D'abord, un personnage d'alcoolique, extraordinaire. Dans le crabe aux pinces d'or, quand il apparaît, Haddock est vraiment terrifiant. Il met en péril la vie de Tintin, il met en péril le bateau, la petite embarcation sur laquelle ils sont partis, etc. C'est un personnage dangereux. Il y a des rêves, d'ailleurs, de Tintin, qui sont des rêves tout à fait terrifiants.
Avec une momie qui vient le hanter, qui arrive du noir.
Oui, mais surtout avec Haddock, qui veut le déboucher comme une bouteille. C'est quelque chose d'insensé. Il y a des cauchemars dans Tintin, il y a des peurs avec le Yéti, dont on ne sait pas au début si le Yéti est un être véritablement abominable et dangereux, par-delà le fait qu'il dérobe les bouteilles de whisky du capitaine, ou si c'est cet être tendre qui a su s'occuper de Chang et le sauver et qui va rester seul, abandonné. Il y a les cauchemars dans les sept boules de cristal, bien sûr, la momie. Tout cela fait de l'univers de Tintin un univers qui a parlé aux enfants au plus profond, qui ne les a pas pris pour des bébés, qui ne les a pas pris pour des êtres niais qu'il fallait protéger. Et je crois que ça, c'est un des vrais secrets de l'œuvre. Moi, j'étais terrifié, enfant, par plusieurs pages dans Tintin. Il m'arrivait même de sauter deux pages à la fois pour ne pas voir les images qui me faisaient peur. Mais évidemment, ne pas les voir, essayer de les sauter, c'est une façon de les voir encore mieux.
Serge Chisseron, on a forcément envie d'avoir votre avis de psychologue-psychanalyste sur le cas Tintin, puisque vous avez écrit dessus, et sur ses peurs, sur ses cauchemars, notamment, c'est vrai, les sept boules de cristal, c'est un des albums les plus proches de la folie qu'il explore le plus.
Oui, moi, ce qui m'avait terrifié le plus, parce que j'ai appris à lire dans les albums de Tintin, donc j'ai commencé à les lire avant de pouvoir comprendre les bulles, eh bien, c'était l'araignée logée dans une planète. Et enfant, j'étais persuadé qu'il y avait une araignée logée dans la planète parce que je n'avais pas accès au texte dans les bulles. C'est après, quand j'ai eu accès au texte dans les bulles, cet album a continué à me terrifier, mais c'est à cause, vous savez, de toutes les transformations qui se produisent lorsque la météorite frôle la Terre. Le goudron des chaussées fond. Les rats sortent des égouts. C'était terrifiant, c'est la fin du monde. Donc, en effet, je suis bien d'accord avec Benoît. Et il y a ce
Benoît
côté.
Peters.
Benoît Peters, il y a ce côté très effrayant. Et je dirais que oui, Hergé, c'est une encyclopédie des savoirs, mais c'est une encyclopédie aussi des erreurs. Faut quand même pas oublier, il y a l'esclavagisme qui est très présent, le colonialisme, le fascisme. Et puis, c'est une encyclopédie de côté noir de l'âme humaine, parce qu'on l'a pas évoqué, mais quand même, il y a deux personnages qui tentent de suicider, un des deux qui réussit, hein, Muller, veut se tirer une balle dans la tête, mais il a le pistolet à eau d'Abdallah, mais c'est quand même pas fréquent de trouver quelqu'un qui pose un revolver sur sa tempe dans une bande dessinée pour enfants et qui appuie sur la détente. Et puis il y a le suicide de Wolf, très réussi, celui-là dans On a marché sur la lune. Donc vraiment une encyclopédie des terreurs, hein, mais en même temps qui finit toujours bien. Et si on parle de drogue par rapport à Hergé, c'est pas une drogue excitante, c'est une drogue tranquillisante malgré tous les territoires abominables qu'il nous fait traverser.
La prescription donc du docteur Tisseron, Zeina Abirachet, oui. Quand on parle évidemment de terreur, on peut penser à ce que vous avez vécu enfant au Liban et où Tintin justement était, je crois, dans votre sac à dos parce qu'il fallait être prêt à quitter la maison, peut-être en cas de bombardement. Racontez-nous un peu la place de Tintin et cette histoire de sac à dos.
Ah oui, non, j'ajouterais peut-être le côté addictif de Tintin. Quand on est enfant, moi j'ai découvert... Un peu comme Serge Tisseron, on a peut-être eu un peu la même enfance parce que j'ai appris à lire le français en lisant les albums de Tintin, donc avant même de comprendre ce qui était raconté. Oui, enfin, la découverte du monde aussi. Donc j'ai grandi à Beyrouth et il se trouve que mes parents avaient quelques illustrés, comme on disait à l'époque, dans la bibliothèque. Et les Tintins ont toujours été là. J'ajouterai peut-être, et j'essaierai de répondre à la question tout à l'heure, mais je ne peux pas m'empêcher d'ajouter une couche au côté encyclopédique. On n'a pas parlé de l'encyclopédie du dessin, parce que pour un dessinateur, c'est merveilleux, tout ce qu'Hergé a dessiné. Alors, vous voulez quoi ? Un scaphandrier, une fusée, une cabine téléphonique, des jumeaux, enfin, il y a tout. et quand on a lu et relu, bon, y a des cases que je connais par cœur, et on continue quand même à découvrir des choses qu'Hergé a dessinées, et ça sert aussi pour ça.
Vous aurez le temps d'en parler, hein. Vous n'inquiétez pas de l'encyclopédie du dessin, l'émission ne s'arrête pas dans une minute.
Sur la politique, alors, un des bénéfices de l'exposition, c'est qu'ils ne font pas du tout l'impasse, fort heureusement, sur la période noire, de 40 à 44, c'est l'occupation de la Belgique par les nazis. Hergé continue à travailler pour un journal ouvertement propagandiste et pro-nazi. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est qu'il y a un discours politique dans Tintin. C'est-à-dire que du début, les soviets, jusqu'à la fin, les Picaros, en gros, c'est un humaniste. C'est un humanisme politique. C'est-à-dire que le totalitarisme ou le capitalisme a produit, et on le sait, hélas, au XXe siècle, les mêmes horreurs et continue à en produire aujourd'hui, hélas. Donc il y a vraiment... C'est de la philosophie politique. C'est pas tellement de la politique au sens strict. Alors les erreurs d'Hergé, bien sûr. Enfin le colonialisme, bien sûr. Mais quand on relit froidement Tintin chez les soviets, c'est lourd parfois. Le propos est lourd. Le trait n'est pas très non plus clair encore à l'époque à tous les sens du terme. Mais s'était-il vraiment trompé sur le régime qui était en train de ravager la vieille Russie?
En tout cas, c'était une commande de cette époque un petit peu scout et cato d'Hergé avant qu'il se libère avec le cigare des pharaons et justement le lotus bleu. On va y revenir. Vous êtes tous autour de la table tintinomane, on l'aura compris. Et sacrément accro, Benoît Peters, Zeynab Yerachev, Gérard Lefort et Serge Tisseron, vous êtes avec nous pour cette spéciale Hergé sur France Culture.
Je n'arrive pas à retrouver cette fréquence que je cherche à identifier depuis plusieurs jours.
Tintin a pris l'habitude de capter des messages sur ondes courtes. Il n'y a plus moyen de dormir tranquillement.
Ah, ça y est.
Ping-pong.
Qu'est-ce que cela peut bien signifier ?
La culture sans limite.
On se souvient de la lutte sans merci que le jeune reporter Tintin avait engagée contre une puissante bande internationale de trafiquants de stupéfiants. Nos auditeurs n'ont certes pas oublié que le jeune Globetrotter avait réussi, après de multiples aventures, à faire mettre sous les verrous les principaux affiliés de la bande. Nous apprenons aujourd'hui que le sympathique reporter et son inséparable Milou sont toujours les hôtes du Maharaja de Rawashputala, chez qui ils goûtent un repos bien mérité.
Je me demande bien comment il a pu savoir que je me trouvais ici, ce monsieur Mitsui Hirato.
Les Japonais, ça sont des bondis, Tintin.
L'entête de la lettre indique la rue de la Tranquillité. Ce soir, 10h, lotus bleu. Évidemment, ce n'est pas beaucoup plus explicite.
Lotus bleu. Il existe à Shanghai une fumerie d'opium qui porte ce nom.
Une fumerie d'opium ? Que faire ? Eh bien, j'y serai ce soir, moi aussi. Sapristi.
Et le même soir, à 10h.
On a l'air d'être accoutumiers de ces pratiques.
Monsieur Tintin ?
Oui, c'est moi. À qui ai-je l'honneur ?
J'ai des choses extrêmement importantes à vous dire. Pouvons-nous parler ici ?
Certainement, nous sommes seuls.
Oh !
Tonnerre, une fléchette ! C'est sûrement la fléchette au Rajaija, le poison qui rend fou.
Oh, tant ! Si !
Comment vais-je faire pour trouver ce Mitsui Hirato maintenant ?
Ça y est, il est fou.
C'est un nom japonais, bien sûr. Entrez !
Tintin, le Maharaja aimerait vous voir.
C'est bien, j'arrive.
Les aventures de Tintin, cette musique onirique. Et cette atmosphère, Jules Vernesque, on le rappelait tout à l'heure, les aventures de Tintin par France Culture et les comédiens de la Comédie Française avec l'Orchestre National de France. C'est une production de France Culture que vous entendrez du 24 au 28 octobre avec cet album donc mis en onde, le Lotus Bleu à 20h30. Le Lotus Bleu, c'est pas n'importe quel album de Tintin, c'est justement un album clé, c'est un album de passage, c'est un album pivot, notamment parce qu'il y a la relation avec Chong qui va naître. On reparlera de ce héros qui existe vraiment dans la vie d'Hergé, qu'on va retrouver dans Tintin au Tibet, entre autres de manière épistolaire aussi dans d'autres albums. Et je voudrais que vous nous expliquiez, Benoît Peters, que vous êtes un peu notre docteur S, Tintin et Hergé. En quoi, justement, c'est un album clé? Vous dites qu'après le Lotus Bleu, finalement, plus rien ne sera comme avant dans les aventures de Tintin.
La première chose dont il faut se souvenir, c'est de la jeunesse d'Hergé. La jeunesse d'Hergé, quand il crée Tintin, sur l'impulsion de son patron, sans savoir où il va aller, la jeunesse d'Hergé, quant au cinquième album, il fait la rencontre d'un jeune étudiant chinois aux Beaux-Arts, à Bruxelles, Chang Chongzhen. Hergé n'a pas eu de formation, il a eu des études secondaires médiocres qui ne l'ont pas beaucoup intéressé, aucune formation en dessin ou peu de lecture, et tout d'un coup, le voilà qui rencontre un quasi-frère. Lui qui a toujours vécu dans ce milieu belge, dans ce milieu scout, aux idées assez arrêtées, il rencontre un jeune homme qui vient de tout à fait ailleurs, qui est porteur d'un autre bagage graphique, qui va commencer, dès la deuxième rencontre, à lui apporter des pinceaux chinois, bien sûr, et des petits livres de peinture, d'exercices de peinture, qui va avec lui dans le jardin et qui lui montre comment dessiner le pommier qui se trouve dans le jardin, en regardant comment cet arbre a poussé, quel a été le mouvement, quelles ont été les contrariétés de cet arbre qui l'ont conduit à chercher la lumière. C'est une rencontre qui transforme complètement le jeune Hergé. Alors bien sûr, il y a du contenu politique, il y a du contenu anthropologique dans ce que Chang lui apporte. Il lui fait part d'un sentiment de responsabilité. On ne peut pas dessiner les Chinois n'importe comment, on ne peut pas raconter n'importe quel cliché sur la Chine. Il faut sortir du premier âge de Tintin.
Parce que dans mais Tintin ça au passe... Congo, c'est très peu documenté.
Oui, 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 au début, Hergé, mais il est dans la naïveté. Il répond finalement à des critères de pur divertissement. Il aligne des petites scénettes sans souci de responsabilité. Tout d'un coup, dans cette époque où personne ne parle de bande dessinée, où aucun journaliste ne s'y intéresse, quelqu'un vient lui dire « ce qu'on fait, c'est important ». Voilà, il y a l'invasion de la Mandchourie par le Japon. On peut changer les idées des jeunes lecteurs, et même peut-être de leurs parents. On peut aller contre la ligne politique du journal Le XXe siècle, dans lequel Hergé paraît, et l'histoire leur vaudra quelques ennuis. Et donc, il se passe là un bouleversement qui évidemment se marque directement dans les planches de Lotus Bleu. Dès qu'on les voit, on en voit quelques-unes dans l'exposition, on est frappé par les progrès graphiques et narratifs d'Hergé, par l'humanité qui s'y glisse. Mais le plus impressionnant, c'est que Chang va devoir rentrer en Chine avant même l'achèvement du Lotus Bleu. Il a quand même eu le temps d'y tracer tous les idéogrammes, tous signifiants, qui font la joie notamment des lecteurs chinois aujourd'hui, puisque Tintin est très, très populaire en Chine aujourd'hui. Mais quand Chang s'en va, l'influence de Chang se maintient. Et ça, c'est une très belle histoire, c'est qu'il y a une sorte de Chang intérieur qui est toujours là aux côtés d'Hergé jusqu'aux retrouvailles qui vont avoir lieu 40 ans plus tard, avec des lettres extrêmement belles, parmi les plus belles qu'Hergé envoie, où il raconte à son ami qui a vécu une toute autre destinée, qui a notamment été victime de la révolution culturelle, qui a dû détruire à la masse un certain nombre de ses propres œuvres, il lui raconte comment cette empreinte, cette influence à continuer à se traduire. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui, évidemment, est dans l'œuvre, puisque Chang devient l'ami chinois de beaucoup de lecteurs. Chang devient une figure encore plus émouvante et plus forte dans un moment de crise intérieure pour Hergé avec Tintin au Tibet. Et puis, tout à la fin de la vie des deux hommes, Chang va revenir, le vrai Chang, Chang Chongzhen, va revenir en Belgique et ses retrouvailles seront évidemment chargées d'émotions puisqu'on ne sait plus à ce moment-là dans les retrouvailles si c'est le Chang de papier ou le Chang de chair et d'os qui est reçu et fêté en Belgique, puis en France, puis un peu partout. Donc il y a vraiment là quelque chose qui a traversé toute l'œuvre et qui, je crois, est la plus forte des réponses à toutes les accusations de racisme qu'on a pu proférer à l'encontre d'Hergé, pour ne pas parler de mots un peu pires que vous avez prononcés au début de l'émission, sur lesquels je ne reviendrai pas.
Zeina Abirached.
C'est un peu dit quand même.
Zeina Abirached, vous, la dessinatrice, l'auteur de bande dessinée, Hergé et Tintin vous ont accompagné dans l'élaboration de votre œuvre. On trouve d'ailleurs une sorte de clin d'œil, et même plus qu'un clin d'œil, dans Mourir, Partir, Revenir, Le jeu des hirondelles, l'une de vos bandes dessinées, cette histoire de savoir s'il faut mettre la barbe sous ou sur la couverture quand on s'endort. Vous avez Tintin dans le sang, et non seulement sur, et pas seulement sur le papier, puisque vous dites que vos livres sont votre cordon ombilical entre la France et le Liban, donc j'imagine que Hergé était dans votre liquide amniotique, mais au-delà du dessin sur lequel on reviendra et que vous avez évoqué, puisque vous avez appris, comme Serge Tisseron, à lire dans les albums de Tintin, dans les albums d'Hergé, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont ces mots, peut-être les plus énigmatiques, qui vous ont marqué quand vous avez appris le français et à déchiffrer ces cases ?
Des mots, peut-être pas.
Des jurons du capitaine Haddock ?
Même pas certainement.
Mes jurons, oui, certainement. Mais j'ai aussi appris à regarder. Je me souviens, par exemple, d'une scène dans... Alors, c'est Benoît Peters, ça va peut-être m'aider. On en a parlé, d'ailleurs. C'est cette scène où... ça doit être le secret de la licorne. Cette scène qui se passe aux puces. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des premières pages de l'album. On est aux puces. Il y a Tintin et Milou. Et Milou se gratte constamment. Parce qu'on est aux puces. C'est des choses comme ça qu'on...
Et ça n'est jamais souligné dans le dialogue.
Jamais.
C'est là, c'est un gag de plus pour le lecteur observateur.
Ah oui, c'est infini, j'avais jamais pensé.
Ah bah oui, et ça quand on... Bravo. Évidemment, on lit les mots, mais quand on apprend à regarder le dessin, c'est un plaisir sans cesse renouvelé d'ailleurs, de retrouver ces petits jeux qu'Hergé a su disséminer dans ses livres. Sans parler de l'ellipse, bon, ça c'est un sujet à part et qui mériterait qu'on en parle peut-être plusieurs heures. Mais ça, oui, pour un dessinateur, un écrivain, c'est une vraie école.
Moi, je pensais justement à un autre regard que celui du dessinateur, c'est celui du cinéphile que vous êtes, Gérard Lefort. C'est vrai que dans Les Amygdales, vous nous faites parvenir votre Tintinophilie, c'est votre roman qui est paru l'année dernière. Vous étiez venu d'ailleurs nous voir dans Ping Pong.
La première de Ping Pong.
La première de Ping Pong. Vous nous avez baptisé. Pardon, non, je ne sais pas si vous avez envie de nous baptiser, je ne pense pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, si on pense aussi au regard cinéphilique qu'on peut avoir sur l'œuvre de Tintin, j'aimerais que vous me diriez un mot, vous me disiez un mot de la construction des cases qui peut être aussi influencée par le cinéma muet, de ces films qu'a vu Hergé, qu'il revendique, notamment les Chaplin. Un peu plus tôt, il va au cinéma avec sa mère. Et puis, on a dans l'exposition ici Hergé au Grand Palais, Yves Robert, Michel Drucker et Hergé réunis, qui racontent finalement la construction des cases comme des plans américains, des plans serrés, des plans subjectifs. Donc, quel regard cinéphile, vous, le critique de cinéma, vous avez sur
Hergé ? Il y a deux choses à dire. D'abord, il y a du cinéma dans les albums d'Hergé, notamment dans Tintin au Congo, où c'est le cinéma qui va apporter la preuve du crime ou du lèse-fétiche, en l'occurrence, dans une case. Tintin est peut-être un petit reporter, mais c'est aussi un documentariste cinématographique. C'est-à-dire, il filme. Et c'est pas le seul, hein. Il fait des photos. Alors ça, c'est la première chose. Alors, ce qui vient d'être dit est très juste, c'est l'art de l'ellipse qui vient directement du cinéma. Et puis, sans doute, parce que c'est aussi simple que si j'ose dire que le cinéma de la bande dessinée, c'est une question de cadre, tout simplement. Alors effectivement, tout le vocabulaire et toute la grammaire du cinéma est dans Hergé, le gros plan, le plan là, pas entrer dans les détails techniques, le plan américain, la contre-plongée, etc. Mais c'est que, ce qui est marrant, c'est que quand le cinéma s'empare de Tintin et d'Hergé, c'est généralement totalement raté.
Il a tout faux, dites-vous. Hein.
Ah oui,
Spielbergnétique a tout faux.
Spielberg, c'est pas le pire, sauf qu'ils ont fait une tambouille effroyable de plusieurs albums. Enfin, c'est quand même une grande vulgarité, le film de Spielberg, par rapport à la délicatesse des albums. C'est ahurissant.
Tintamarre, c'était votre titre dans Libération.
Oui, Tintamarre, un auteur, dites-vous.
Ben oui. Mais c'est sur l'influence du cinéma, si j'ose dire, ça crève les yeux.
1, 2, 3. Vous écoutez Ping Pong sur France Culture. À suivre, eh bien, la psychopathologie de Tintin et la phénoménologie de la ligne claire avec le psychanalyste Serge Tisseron, le philosophe Martin Legros et d'autres invités toujours en public du Grand Palais où se tient l'exposition Hergé.
Musique. Ping Pong.
Musique.
La culture sans limite.
Pour cette émission Tintinomaniaque et Tintinophile au Grand Palais, place au plus théâtral des albums d'Hergé, à un personnage clé qu'on a appelé dans ce qui est la famille de Tintin, la Castafiore, bien sûr. Seul véritable personnage féminin, cantatrice italienne de renommée internationale, surnommée le Rossignol Milanais, qui va dans les bijoux de la Castafiore, seul album en huis clos des aventures de Tintin, s'est lancé dans une interprétation de son air préféré, l'air des bijoux. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. C'est l'air de Marguerite, l'héroïne de Faust dans l'opéra d'Hervé Gounod, interprétée jadis par la Callas. Pour nous, ce soir, la Castafiore est dans Ping Pong. Comme on dit chez Tintin, tous aux abris, elle va chanter.
Mon Dieu, que de bijoux, le sarve charmant qui m'éblouit. Où si je veille, mes yeux n'ont jamais vu de richesse pareille. Si j'osais seulement me parer un moment de si pendant d'oreilles, voici justement au fond de la cassette un miroir. Comment n'être pas coquette? Comment n'être pas coquette? Je ris de me voir si belle dans ce miroir. Est-ce toi, Marguerite? Est-ce toi? Réponds-moi, réponds-moi. Réponds, réponds, réponds vite. Non, non, ce n'est plus toi. Non, non, ce n'est plus ton visage. C'est la fille d'un roi. C'est la fille d'un roi. Ce n'est plus toi, ce n'est plus toi. C'est la fille de roi qu'on salue au passage. Oh, s'il était ici, s'il me voyait ainsi, comme une demoiselle, il me trouverait belle.
Il me trouverait belle.
L'air des bijoux de la Castafiore par Odile Heimburger, accompagnée au piano de Charlotte Gauthier. Odile Heimburger, bravo. En concert à la Péniche Adélaïde, Quai de Loire, à Paris. Si vous voulez venir la voir le 24 novembre prochain dans un spectacle sur la folie à l'Opéra. Justement, Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste, auteur de Tintin et Le Secret d'Hergé. J'ai envie de vous poser la question de la Castafiore, qui est essentielle, qui est une question clé dans l'œuvre de Tintin. C'est vous qui allez le découvrir, notamment ce qu'elle représente dans la vie d'Hergé, consciemment et inconsciemment.
Oui, alors la Castafiore, c'est un personnage extraordinaire, hein, parce que c'est un personnage double. Il suffit de lire la succession des cases. Tantôt, elle apparaît comme une grande dame, une diva, son manteau de fourrure, hautaine. Et puis, dans la moitié des cases, elle apparaît complètement sous une autre apparence. C'est la fameuse Marguerite, hein, de l'opéra de Gounod. Et là, elle incarne qui ? Ben, elle incarne une pauvre fille qui est tombée amoureuse de Faust, rajeunie par Méphisto. Et puis, elle ne sait pas comment séduire. Et puis, Méphisto, donc le diable, a caché des bijoux dans une cassette. Marguerite met ses bijoux sur elle et c'est là qu'elle chante « Ah, que j'aurai une voix si blanche miroir ». Grâce à ses bijoux, je vais pouvoir séduire Faust.
Et puis, ce n'est pas moi, c'est la fille d'un roi. Tout voilà, d'un coup, elle change de condition sociale.
Elle a l'impression d'être la fille d'un roi et donc elle séduit Faust sans difficulté. Tout ça est organisé par le diable. Et puis, Faust lui fait un enfant et puis elle est abandonnée. Et puis elle meurt dans des conditions dramatiques. Et donc ce personnage double, ce qui est intéressant, c'est qu'il renvoie finalement à deux personnages également énigmatiques pour le petit Hergé, parce qu'il ne les a pas connus. Hein. D'un côté, sa grand-mère, qui était servante, pauvre servante, mais qui s'est trouvée enceinte d'un homme inconnu, qui aurait pu être quelqu'un de très important. Donc, oui, on retrouve Marguerite, mise enceinte par Faust, voilà. Et puis, d'un autre côté, eh bien, Hergé entendait dire, quand il était petit, que son père et son oncle auraient été pris sous leur aile par une mystérieuse grande bourgeoise, une noble même, une comtesse, une duchesse. Et donc, vous voyez, la Castafiore, c'est un peu ces deux figures de la mythologie familiale de Hergé. Et moi, c'est ça qui m'a accroché. Chacun a son Hergé à lui. Hein, voilà. Et moi, comme j'avais commencé à lire Tintin avant de savoir lire, eh bien, du coup, j'ai accroché un certain nombre de choses. La Castafiore double, les Dupont, quand j'ai appris à lire, qui n'ont pas le même patronyme, Dupondé, Duponté. Et c'est ces fils conducteurs qui m'ont amené finalement à découvrir qu'il y avait un secret de famille qui traversait les albums de Tintin et que Hergé était probablement porteur d'un secret semblable. Et ça a été confirmé quelques années plus tard.
Il a dit, c'est moi.
Ne faisons pas de mystère, le secret est très simple, c'est un garçon, précisément son père et son oncle, donc deux garçons, deux jumeaux, nés d'un père non désigné, désigné à l'état civil, mais non désigné à l'enfant dans son histoire, et puis imaginé comme extrêmement important.
Oui, voilà. On a même imaginé un avocat bruxellois disait que c'était Léopold II lui-même.
Oui. Hein. Alors Hergé a dû le rêver beaucoup, et comme il y a beaucoup de petits descendants des bâtards de Léopold II dans les rues de Belgique, c'est pas impossible.
Gérard Lefort ?
Oui, enfin, donc nous parlons de sexualité. La Castafiore, on peut la voir quand même comme un travelot. Enfin, vraiment comme un travelot, un gros travelot, sympathique, comme tous les travelots, mais un travelot quand même. Alors, je dis ça parce que...
Ça fait une femme de moins dans les aventures
oui,
de Tintin.
Mais non, c'est pas ça. Non, oui, oui, parce qu'il y en a pas beaucoup. Mais les albums de Tintin ne sont pas sexués. Ils peuvent être sexuels éventuellement selon les désirs des uns et des autres, mais ils sont pas sexués. C'est quoi la sexualité de Tintin, le personnage de Tintin? Il n'en a pas, et c'est sans doute pour ça, c'est parce qu'il n'a pas de sexualité qu'il ne vieillit pas d'ailleurs. Vous savez, ça crève, hein, la sexualité. Et puis, tout ça pour dire, parce qu'il y a eu des versions porno de Tintin, des pastiches porno.
Ils ont été attaqués par Moulin.
Oui, mais peu importe qu'ils soient attaqués ou pas, ça c'est les problèmes de droit. C'est pas ça l'affaire. Là, le fond de l'affaire, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, la pornographie sur Tintin, parce que on peut aussi, c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire les 2 milliards de lectures possibles de Tintin. Alors, on peut dire, oui, la Castafiore, c'est plutôt un travelot, Capitaine Haddock et Tintin, drôle de couple. Alors, les Dupont, n'en parlons pas. Alors, voilà. Et puis, la sympathie extrême de Tintin pour les jeunes garçons. Il n'y a pas que Chang, il y a aussi Zorino, etc. Il y a l'incroyable et infernal Abdallah. Enfin, bon. Mais tout ça est un peu rabat-joie, je trouve. Enfin, pornographiser Tintin serait, comme la pornographie, un peu triste. Alors que je trouve que ce Tintin, c'est littéralement transsexuel. C'est-à-dire que ça met dans des trans, pas simplement que sexuel, mais il y a de la transsexualité dans Tintin qui est beaucoup plus riche et belle et poétique que n'importe quelle interprétation psy. Excusez-moi,
alors,
un grand merci parce que vous apportez de l'eau à mon moulin à 100%, puisque toute mon hypothèse sur Hergé, c'est justement de dire qu'il ne faut pas y chercher la sexualité. Lorsque mon bouquin Tintin chez le psychanalyste a été publié en 1985, des gens m'ont tapé dans le dos en me disant « Ah Serge, alors tu montres que Hergé était homosexuel et que ces personnages... » J'ai dit « Non mais tu rêves, c'est pas ça du tout mon problème. » Pourquoi est-ce que les personnages ne sont pas sexués dans les aventures de Tintin? Parce que les aventures Tintin, c'est l'histoire d'un enfant qui raconte le regard qu'il a porté à la fois sur des adultes qui l'entouraient et sur des adultes dont il entendait parler. Et il y en a la preuve. La preuve, c'est que Chang, quand il apparaît, n'apparaît pas comme un adulte, mais comme un enfant. Or, la logique de l'âge, la logique de la rencontre, Hergé et Chang aurait voulu que Chang apparaisse comme un adulte. Or, Hergé ramène tout à l'enfance. Autre preuve, la dessinatrice n'est plus là pour me le confirmer, mais la plupart des dessins d'Hergé sont dessinés à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que si vous trouvez le paysage que Hergé a dessiné sur une vignette, il y a quelques images de Bruxelles qu'on retrouve sur des vignettes, il y a même des panneaux à Bruxelles qui rappellent la case. Vous vous mettez devant, il faut vous accroupir pour voir ce que Hergé voyait, parce que Hergé dessinait tout à hauteur d'enfant. Le monde d'Hergé, c'est le monde vu par un enfant, c'est pour ça qu'il n'y a pas de la sexualité, n'y est pas présente, et la Cassafiore, c'est pas une horrible castratrice mégère et tout ce que vous voudrez, fantasme d'un homme adulte frustré, pas du tout, ça c'est la fausse route. Non, la Cassafiore, c'est cette figure double dont je vous ai parlé, deux femmes qu'il n'a pas connues, mais qu'il a imaginées et qu'il a reproduites dans son œuvre, parce que choisir la BD, c'est forcément choisir le chemin de l'enfance.
Mais il n'en demeure pas moins, Benoît Peters, que cette enfance, ça n'est pas une Arcadie, c'est pas l'âge d'or pour Hergé. Vous êtes son biographe, avec Hergé, fils de Tintin, mais avant vous, Hergé s'est aussi confié à Numa Sadoul, et il y a notamment cette phrase assez terrible, « Mon enfance, j'y repense avec tristesse, avec morosité et parfois avec dégoût. » Et on parle de... Il y a des soupçons d'abus sexuels dont il aurait pu être victime. Quel regard et quelle trouvaille peut-être avez-vous fait concernant cette ambivalence d'Hergé qui a su enchanter l'enfance de tant de personnes et qui, lui, regardait son enfance avec quelque angoisse?
Ce mot de dégoût est effectivement très fort. Pendant longtemps, il parlait de grisaille, de tristesse, et puis de temps en temps, et je l'ai entendu aussi de la bouche d'Hergé, ce mot de dégoût. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la guerre de 14, il faut pas l'oublier. Le traumatisme, y compris sur le plan politique, après, pour Hergé, c'est la guerre de 14 qui est très... Il est né en 1907, donc entre 7 et 12 ans, il est en plein dans la guerre de 14, qui est très brutale, très violente à Bruxelles. On a faim, on a froid, on a peur. Ensuite, il y a ce secret de famille évoqué par Serge Tisseron, mais il y a aussi la personnalité de sa mère. Une mère mélancolique, une mère qui a des passages à vide. Le père d'Hergé, qui est souvent en voyage, recommande au petit Georges, c'est son vrai prénom, de bien veiller sur sa maman, de faire attention à ce qu'elle soit sage. Et cette mère, on ne peut plus fragile et dépressive, finira folle. C'est une chose dont Hergé ne parlera jamais, mais qui est une blessure évidemment énorme. Je me souviens, dans le dernier entretien que j'ai fait d'Hergé, je l'interroge sur sa mère en disant qu'il n'en parle jamais. Et il dit « parce que j'ai l'impression de ne l'avoir presque pas connue ». Ce qui est étrange, elle est morte, il avait 39 ans quand même. Autre chose, il y a cette présomption dont je fais état dans mon livre, et j'ai de nombreux indices et surtout des témoignages familiaux, cette présomption d'un abus sexuel dont Hergé aurait été victime de la part d'un de ses oncles pendant la fin de l'enfance et l'adolescence, et qui pourrait expliquer quand même cette sorte de, allez, disons, de forclusion de la sexualité qu'il y a dans l'œuvre. C'est-à-dire que il s'agit pour Tintin d'avoir toute l'ingénuité, l'innocence, la force de conviction de l'enfance et toutes les compétences de l'adulte en ayant contourné l'adolescence. Parce que s'il y a bien une chose que Tintin n'est pas, c'est ado. Il n'est jamais ado, il réussit à relier l'enfance et l'âge adulte. Et je crois que beaucoup de scènes un peu mystérieuses des aventures de Tintin peuvent être lues aussi à la lumière de cette enfance abîmée, et donc de cette enfance qu'il s'agit de réinventer. Il y a cette phrase incroyable qu'Hergé aimait citer la première fois que je l'ai entendue, je me suis dit c'est un bon mot, quand il disait à propos de Josette et Joko, oh, ils sont prisonniers de leur contexte familial, les parents, c'est lourd à manier dans un récit, et citant un mot de Jules Renard, tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin. Mais quand vous entendez vraiment cette phrase par rapport à ce qu'on peut aujourd'hui savoir sur l'enfance d'Hergé, c'est plus du tout un mot d'esprit, c'est quelque chose de très profond et de très fort. Tintin n'a ni ascendance, ni possible descendance, il est la liberté même, il est ce qui a profondément manqué à Hergé jusque très tard.
Vous voulez réagir parce que vous êtes là, Zeynep.
Je suis revenue.
Tout à l'heure, Serge Tisseron vous appelait à son secours pour confirmer ses dires. Quel regard vous portez comme ça sur la sexualité dans Tintin ?
Aïe, aïe, aïe.
J'ai bien fait de revenir.
Qu'est-ce que vous y avez vu ?
Très sincèrement, quand j'étais plus jeune, quand j'ai découvert Tintin et qui m'a accompagnée toutes ces années, je ne me suis pas posé la question du tout. Vraiment, c'était pas intéressant pour moi de savoir ce qu'il y avait derrière tout ça. Donc après, bon, il y a des théories, c'est intéressant, c'est même passionnant, mais j'aime bien l'idée de Serge Tisseron, de cette... c'était peut-être pas Serge Tisseron d'ailleurs, de cette transsexualité.
Oui. C'est Gérard Lefort ici présent.
Évidemment.
Rendons à Gérard ce qui est à Gérard.
Oui, pardon. Cette ouverture, cette liberté, et voilà, je suis plutôt, je trouve ça assez intéressant. En écoutant Serge Tisseron, j'ai repensé à autre chose, parce qu'il parlait de la hauteur du regard d'enfant. Je trouve ça vraiment très intéressant. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée et que auquel j'ai beaucoup réfléchi dans mon propre travail. J'ai repensé aussi, mais c'est peut-être anecdotique, mais ça vous fera peut-être rire, à tout ce qu'Hergé, à la fantaisie d'Hergé pour certaines trouvailles graphiques. Je repense à l'affaire Tournesol. Vous vous souvenez de cette fameuse expression par les moustaches de Plexiglas ? Et Plexiglas, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un monsieur moustachu.
Un dictateur.
Une moustache assez particulière, d'ailleurs, qui se relève un petit peu.
Voilà. Et la moustache, elle est partout. Elle est sur l'accent circonflexe des O. Elle est surtout dans tout le mobilier urbain. On est en bordurie, si je ne me trompe pas. Le pare-choc des voitures, les feux rouges,
un dictateur qui change la langue, c'est une idée merveilleuse. Et là aussi, elle n'est jamais relevée. L'élégance d'Hergé, c'est quand même le nombre de détails qu'un relecteur ou un re-relecteur peut découvrir sans qu'Hergé ait éprouvé le besoin de dire « Vous avez vu la moustache etc. » Bon, le parti s'appelle certes parti moustachiste.
Oui.
Et c'est à la fois un jeu extraordinaire sur le stalinisme. Et quand on se souvient, pardonnez-moi cet instant de pédantisme, mais quand on se souvient que Staline lui-même a écrit sur les problèmes de linguistique et a fait la leçon aux linguistes, on imagine qu'il aurait très bien pu introduire dans la langue russe un accent en forme de moustache.
Et puis Staline, la moustache quand même.
Ben oui.
Oui, la fameuse moustache décrite par Mandelstam, qui bouge comme des cafards quand il rit. Mais puisque tout est dans Hergé, c'est comme ça qu'a ouvert notre conversation Gérard Lefort, je me tourne vers vous, Martin Legros, philosophe, rédacteur en chef adjoint, sans moustache. Pourtant de Philomag, et pourtant il y a des philosophes à moustache avec des moustaches imposantes, mais puisque tout est dans Hergé, quand Gérard Lefort a fait cette proposition, j'ai pensé à Leibniz, qui peut-être avant Hergé était, dit-on, le dernier à avoir été encyclopédique dans son savoir. Vous avez une approche d'Hergé, je crois, du côté de la philosophie politique, puisqu'on est avec les moustachistes, pas loin de la bordurie. Est-ce
oui,
que vous apporteriez vos lumières ?
Non, c'est très juste de dire que Tintin est une œuvre encyclopédique, mais à sa manière, Hergé disait « je suis une éponge ». Et ce n'était absolument pas quelqu'un qui...
Il ne parlait pas d'alcool.
Non, une éponge par rapport à ce qu'il entourait, au monde qu'il entourait. Et c'est très juste, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un, à mon avis, qui lisait des œuvres philosophiques, à mon avis, il n'avait sans doute pas lu Leibniz, mais par contre, c'est quelqu'un, et c'est étonnant quand on fait ce petit exercice d'essayer de voir dans les quelques dates, L'oreille cassée, qui est un grand texte, qui paraît en 37, L'oreille cassée, c'est sur les doubles, la prolifération des doubles et la recherche d'un original derrière ces doubles. Eh bien, en 1935, soit un an avant, Walter Benjamin publie l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Je ne dis pas que Hergé l'a lu, je dis simplement qu'il a mis, transposé dans le domaine de la fable, une question qui était dans les esprits du temps, qui était la multiplication des doubles. Quand l'art se reproduit, qu'est-ce qui se passe avec les originaux ? Et il raconte cette histoire, cette question métaphysique, sous le mode d'une fable qui est extraordinaire. Deuxième exemple.
Jusqu'à Warhol, puisqu'ils
ont été copains. Bien sûr, c'est une énorme question, mais
Warhol est dans l'exposition Hergé, ici, au Grand Palais.
Oui, problème de la reproduction à l'infini du même.
Tout à fait. Deuxième petite ponction comme ça historique, l'affaire Tournesol paraît en 1956. En 1954, je crois, paraît le grand texte de Heidegger sur la question de la technique. L'affaire Tournesol, si vous voulez, c'est vraiment la question de la technoscience. Et comment est-ce que Tournesol, qui est entre la magie et la science, nous apporte quelque chose qui va peut-être détruire les nations. Hergé n'a évidemment pas lu la question de la technique de Heidegger. Par contre, il transpose dans la fable une question qui est dans l'esprit de tout le monde. Dernier exemple, les bijoux de la Castafiore, dont Michel Serres a pu dire que c'était un traité philosophique sur la communication. C'est dans les années 60, début des années 60, l'arrivée de la télévision dans les foyers. Eh bien, Hergé raconte l'histoire d'individus qui ne parviennent plus à se parler tellement ils essaient de communiquer par le biais de ces outils médiatiques. Hergé n'a pas lu Habermas et la question de la communication. Par contre, il transpose dans l'univers d'une fable, sensible à cet univers-là, une question philosophique qu'il raconte sous le mode d'une fable. Donc je dirais que, du point de vue philosophique, c'est d'abord amusant de faire ces repérages qu'on peut multiplier sur l'ethnologie, sur le temple du soleil. Extraordinaire réflexion sur les rapports entre la raison et la superstition. Quand Tintin apprend dans le journal qu'il va y avoir une éclipse qui va les sauver, il a un rapport à la science qui est notre rapport à nous tous de la science. Quelque chose qui nous sauve, mais qu'on ne comprend pas dans le fin du fond. C'est un rapport superstitieux à la raison comme outil qui va nous sauver. Hergé raconte ça, qui est un résumé notre rapport contemporain à la science. Il le raconte sous le mode d'une fable. Donc voilà, à mon avis, comment est-ce qu'on peut aborder Hergé philosophiquement. C'est pas Hergé philosophe, c'est Hergé éponge des grandes questions philosophiques qu'il transpose dans le modèle de la fable.
Et Martin Legros, justement, au-delà de ces concepts philosophiques qui vont filtrer par l'éponge Hergé dans les albums de Tintin, il y a aussi peut-être la construction qui est philosophique en elle-même. Quand vous travaillez avec des philosophes qui vont intervenir dans Philosophie Magazine sur leur tintinophilie, Clément Rosset, philosophe, va lui plutôt saluer la construction chez Hergé, c'est-à-dire qu'il pense que lui-même, dans son rapport à son héros, qui est le réel, c'est son concept majeur dans son travail, eh bien, il crée aussi une famille de personnages et de petits concepts avec qui son héros dialogue. Et finalement, c'est pour ça qu'il mêle toujours Hergé à toutes ces grandes références philosophiques, Clément Rosset, parce que pour lui, c'est dans la construction qu'il y a quelque chose de philosophique chez Hergé.
Oui, il retrouve chez Hergé, à travers tous les personnages de double qu'il y a chez Hergé. On a parlé des Dupont et Dupont, mais il y a des doubles partout dans Hergé. Il retrouve la réflexion qui est la sienne. Et c'est là où les philosophes aussi sont un peu des filous, c'est-à-dire ils projettent peut-être parfois sur Hergé leur propre métaphysique. Mais en l'occurrence, Clément Rosset retrouve chez Hergé l'idée que les doubles sont des doubles de réalité et que, par exemple, dans L'oreille cassée, il n'y a pas un original qu'il faudrait rechercher derrière la copie, mais que la réalité n'est qu'une succession de doubles sans origine première.
Zeina Birached.
Oui, petite anecdote. D'ailleurs, L'oreille cassée commence dans un musée et le gardien qui époussette les vitrines chante. Vous vous souvenez ce qu'il chante?
Toréador.
Oui, tout à fait. Gérard Lefort. Un œil noir te regarde.
Mais il y a un autre truc. Je trouve qu'il y a... On a l'impression qu'il y a du lisse dans Tintin et que c'est très difficile, que beaucoup des interprétations très 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 brillantes comme vous venez de la faire s'y cassent les dents, quelque chose résiste dans Tintin. Et il y a récemment, ça m'a sauté aux yeux parce que c'est pas réellement, j'en lis au moins une fois par mois du Tintin. Donc, ce qui m'a sauté une nouvelle fois aux yeux, c'est quelque chose que j'avais jamais vu, comme l'histoire de Milou qui se gratte au puce. C'est des petites failles. Enfin, façon Fitzgerald, il y a des failles, il y a des ruptures, et ça passe par la crise. Généralement, ça passe la crise. Deux sortes de crises. Très rarement, Tintin perd la tête ou perd la boule. Quand on le croit fou, il mime la folie. C'est dans le Lotus bleu. Mais il est ivre, il peut être ivre, et alors là, il est plus que le capitaine Haddock, c'est un amateur à côté. Première faille. Deuxième faille, extraordinaire, magnifique crise, le savant en chef devient fou. C'est le professeur Tournesol, parce que Haddock a eu le malheur de le traiter de zouave, de pique une crise de colère, qui se termine par une crise de catatonie. C'est-à-dire, il a tout perdu, c'est la panique, on va plus pouvoir envoyer la fusée dans la lune. Et ce qui est merveilleux, d'un point de vue à la fois psychanalytique et philosophique, ce qui le guérit, c'est ce qui l'a rendu malade. C'est-à-dire, le mot-clé qui va le réveiller, c'est soif.
Mais à propos de ces petites failles, justement, qui ouvrent aussi des possibles dans l'imaginaire, et tout un univers fantastique pour les lectrices, pour les lecteurs, qui faisaient 7,77, beaucoup plus ou un petit peu moins, Benoît Peters, c'est aussi cette facette de philosophe
on a parlé du philosophe, on a parlé de l'anthropologue, de l'ethnologue, du côté psychanalytique d'Hergé qu'il assumait volontiers, mais il y a aussi cette dimension, dit-on, occultiste, théosophe, membre de la Fraternité des Polaires ou encore de l'Ordre du Prieuré de Sion. Vous avez pu, vous, pister, prendre en filature.
Non, moi je ne suis pas
Hergé
tellement...
du côté de la radiesthésie.
Non, Hergé a été un homme curieux de tous les savoirs occultes, de tout ce qui peut nourrir un récit de fantastique et d'imaginaire. Mais je ne crois pas du tout ni à l'appartenance à la franc-maçonnerie, ni à d'autres sociétés secrètes. C'était un grand lecteur de Jung, lui-même amateur de mythes. Il a été à un moment lecteur de la revue Planète, tout cela à travers un de ses amis qui a contribué à quelques-uns de ses errements politiques, qui s'appelle Raymond de Becker, qui l'a initié à tout cela, qui lui a mis des livres dans les mains. Moi, ce qui me frappe surtout aujourd'hui dans Tintin, c'est l'extraordinaire part autobiographique qu'Hergé y a glissé sans qu'elle se voie trop et sans qu'elle pèse. Vous savez, toutes les crises personnelles qu'Hergé a vécues, elles se reflètent dans Tintin. La dépression du capitaine Haddock après l'enlèvement de Tournesol dans les 7 boules de cristal, c'est un moment où Hergé a sa première grande crise dépressive autour de la quarantaine. Il y a eu une très longue interruption de cette histoire. On retrouve.
C'est après la libération, avant qu'il ait son certificat après, de civisme en 46.
Voilà, enfin, après les reproches qui sont adressés à Hergé, après la mort de sa mère aussi, folle, comme je le disais tout à l'heure. Et on retrouve Haddock dans une attitude qui, je l'ai montré à plusieurs médecins et psychiatres, incarne à la perfection dans le relâchement des membres et dans l'abattement, incarne la dépression. Il y a d'ailleurs un autoportrait d'Hergé un peu plus tard qui ressemble exactement à cela. Pendant On a marché sur la Lune, qui est une histoire hantée par la mort, Hergé va avoir une interruption d'un an et demi, incapacité de continuer l'histoire. Et pendant Tintin au Tibet, qui correspond à une crise conjugale très forte, la séparation avec sa première femme, avec un sentiment de trahison, de reniement, d'injustice, il y a cette scène bouleversante où Haddock est suspendu à la corde, il est dans le vide, il ballotte, ils vont mourir tous les deux car Tintin n'arrive plus à le retenir, et Haddock lui dit « je vais couper la corde, il vaut mieux qu'il y en ait un qui disparaisse plutôt que deux », et Tintin, qui incarne le pôle vertueux à ce moment-là, dit non, etc. Quand vous lisez les lettres qu'Hergé envoie à son épouse à la même époque, c'est absolument extraordinaire et bouleversant. Et on peut dire d'une certaine façon que l'abandon du Yéti à la fin de Tintin au Tibet, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire ce Yéti maternant, enveloppant, sans lequel tous les efforts de Tintin pour sauver Chang auraient été inutiles, on le laisse là. Il y avait dans le crayonné de la dernière page des larmes du Yéti qui ont été enlevées à l'ancrage, parce qu'Hergé a compris qu'il n'était même pas nécessaire d'être aussi explicite, que tout lecteur ressentait cette chose. Tout cela, ce sont des éléments directement liés à la vie d'Hergé, et en même temps, un enfant, un adulte, nous tous, nous pouvons lire Tintin en sentant qu'il y a une charge particulière, qu'il y a un investissement particulier, mais sans savoir forcément tout ce qu'on a découvert depuis et tout ce qu'Hergé cachait soigneusement. Car Hergé, dont ce n'était pas le vrai nom, qui se cachait derrière ce pseudonyme, pendant longtemps a enfilé un masque. Le Hergé des interviews n'est pas le Hergé des lettres, par exemple. Le Hergé profond qu'on peut découvrir. Mais je pense que le lecteur sent à quel point cette œuvre est une œuvre d'auteur et d'artiste et pas l'œuvre d'un faiseur et d'un simple amuseur.
Et Benoît Peters, vous avez choisi ce titre, Hergé, fils de Tintin. On se rend compte aussi de la vie qui aurait pu être celle d'Hergé si son personnage n'avait pas pris le pas sur lui. C'est-à-dire qu'il y a des planches où l'on voit que Tintin fouette Hergé sur sa table de dessin. On le voit aussi en train de tenir les ficelles de la marionnette de l'Hergé dessinateur. Donc en quoi finalement il a dû accepter la vie que lui imposait Tintin ?
Hergé crée Tintin dans une certaine ingénuité et pendant longtemps il est synchrone de Tintin. On peut dire que le Hergé des années 30 qui travaille seul, il est Tintin. Et puis à un moment, la maturité vient et il éprouve le besoin d'ajouter à ce Tintin d'autres figures dans lesquelles il va se projeter autant. Il est évident que le Haddock qui apparaît en 1941 dans Le Crabe aux pinces d'or, c'est un peu Hergé, et que Tournesol, les Dupont, la Castafiore, chacun porte un morceau de lui-même. Mais Tintin est celui qui semble toujours être devant lui. C'est celui qui conduit l'aventure, celui qui fait ce qu'Hergé n'a pas pu faire, à commencer par voyager.
Et alors, si Tintin conduit l'aventure, comme il conduit l'exposition, la grande exposition Hergé, ici, au Grand Palais, où nous sommes en public, Zeina Abirachet, je vous donne la possibilité, l'honneur, de terminer notre conversation en revenant au dessin, parce que ce qui est présenté d'emblée dans cette exposition, c'est aussi les tentatives
de peintre du dimanche ou du samedi, comme le dit Hergé lui-même, ses tentatives de faire de la peinture contemporaine, on le sait aussi collectionneur d'art contemporain. Qu'est-ce qu'il y a pour vous d'éminemment contemporain dans le dessin d'Hergé?
Il y a 65 toiles hein, d'Hergé.
Oui, oui, oui. En effet, d'ailleurs, l'exposition commence par la fin. Bon, ça, on en a parlé. Moi, ce qui m'a surtout énormément impressionnée, c'est de voir ces crayonnés. Pardon, je ne réponds pas du tout à la question.
Mais si, mais, ces griffonnages, notamment les planches de l'Alphard qui sont présentées ici,
oui,
du dernier album.
Oui, de voir
album,
aussi
ouais.
les autres planches où on voit ces crayonnés, l'énergie de son dessin, les repentirs, les choses auxquelles il a pensé, qui continuent, d'autres qu'il arrête là, dans la marge. Il y a cette fameuse scène du sparadrap dont tout le monde se souvient sûrement, dont les crayonnés sont dans l'exposition, c'est merveilleux.
Le noir et blanc peut-être.
Alors ça,
premières planches de Tintin chez les Soviets, vous qui dessinez en noir et blanc, qu'est-ce que ça vous a fait peut-être comme école de dessin?
Ça c'est extraordinaire. C'est très déprimant aussi. Il a tout compris.
Pourquoi?
Parce que rien, il n'y a rien. Il y a une économie de moyens incroyable. Et tout y est.
On croit parfois que le premier Hergé dessinait mal, mais c'est pas vrai, il dessinait juste autrement. Il dessinait avec une franchise qui est celle de la bande dessinée d'aujourd'hui. Par moments, c'est du Johann Svarr. Il y a la liberté par rapport au réalisme. Et c'est extraordinaire de voir comme cet homme a su se réinventer deux ou trois fois comme dessinateur.
Ping-pong, ou plutôt ping-pong, au pays de Tintin, c'est déjà fini.
Merci à nos complices, je crois qu'on peut les applaudir. Les membres de l'International Tintin, comme disait Marguerite Duras, qui était à nos côtés aujourd'hui donc au Grand Palais, à savoir Benoît Peters, auteur de cette biographie de référence, Hergé, fils de Tintin chez Flammarion, Zeina Abirached, auteur, votre dernier ouvrage, votre BD, c'est Le Piano Oriental chez Casterman comme Tintin, Les Amygdales, le roman de Gérard Lefort, où il y a des personnages de Tintin aux éditions de l'Olivier. Quant à Serge Tisseron, il est l'auteur de Tintin et le secret d'Hergé chez Hors Collection, et vous, Martin Legros, vous êtes le rédac-chef adjoint de Philomag, où on retrouve notamment en ce moment cet entretien de Clément Rosset, tintinophile et saisi par le vertige de la duplication.
Le ping-pong est une petite aventure radiophonique qui se dessine en équipe, et quelle équipe, à la rédaction Aïssat Wendoy, Jeanne Aléo, CCM Boutata, mais aussi Lila Bozès, à la réalisation Thomas Beau, à la prise de son ce soir, Yvan Charby, Julien Bourdet, Sébastien Huel, Andreas Jaffré et Patrick Beaulieu, chargé de production Dominique Allard. Un grand merci à celles et ceux qui sont venus nous voir ici dans ce salon d'honneur du Grand Palais et à ceux qui nous y ont accueillis.
Et merci aux équipes du Grand Palais pour leur accueil. Lundi dans Ping Pong, les frères d'Ardenne pris en filature avec la complicité d'Adèle Haenel.
Et dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec À Voix Nue sur France Culture, bien sûr.